Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on discute fusils, armes de poing et compagnie avec le député QS Alexandre Leduc, qui a fait adopter une motion aujourd'hui à l'unanimité et qui dénonce le projet de loi fédéral présenté mardi par le premier ministre Trudeau à ce sujet. Ottawa devrait déléguer ses pouvoirs de réglementation en ces matières à Québec, croit M. Leduc et le reste de l'Assemblée nationale. Ensuite, on reçoit un militant de la CAQ, Samuel Clavel-Labrecque, qui fustige le gouvernement Legault. Dans le dossier du tramway de Québec, M. Clavel-Labrecque a publié une lettre dans nos pages à ce sujet. Mais d'abord, il y a un vadrouilleur à 2 mètres de moi, dans le studio quand même.
Go! Go!
Bonjour Marc-André Gagnon.
Bonjour Antoine.
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Intéressant sondage ce matin sur le tramway de Québec et le sujet a justement suscité beaucoup de débats à l'Assemblée nationale ce matin. D'abord, parlons du sondage.
Oui, bien si on résume, donc un sondage léger publié ce matin dans les pages du Journal de Québec qui rapporte que le niveau d'appui finalement de la population de Québec envers le projet de réseau structurant du maire de Québec, Régis Labeaume, se situe actuellement à 56% parmi les répondants. Ça, c'est après répartition des indécis.
C'est un excellent score.
Oui, reste que l'envers de la médaille, mais c'est qu'il y a 44% des gens qui sont sont en désaccord donc avec le projet.
Stéphane Dion parlerait d'une majorité claire.
avant répartition des indécis, on parle quand même de 20% de la population qui est plutôt en désaccord et 19% qui est tout à fait en désaccord. Donc ça reste quand même important et c'est ce que semble percevoir la CAQ au sein de la population à Québec pour justifier son hésitation à donner le feu vert au projet.
Ben oui, puis hésitation qu'on peine à expliquer exactement dans le détail. On essaie de comprendre. Et ce matin, les oppositions ont posé beaucoup de questions là-dessus. D'abord en point de presse, puis ensuite à la période de questions.
Absolument. La période de questions au Salon Bleu, c'est le député libéral Enrico Ciccone, là, qui est le critique en matière de transport, qui a frappé le premier en reprochant finalement au gouvernement d'agir contre la volonté des citoyens à la lumière de ce sondage-là. Et il y a même sa collègue libérale qui est maintenant porte-parole pour le Parti libéral.
Capitale nationale, Marois Risky de Saint-Laurent, oui.
C'est ça, donc, qui a relevé que les citoyens de 4 arrondissements sur 6 à Québec sont favorables au projet. Et à ça s'ajoute aussi le rapport du vérificateur général de la Ville de Québec hier, qui s'inquiète de dépassement de coûts que pourrait engendrer chaque année de retard dans la réalisation du projet de tramway. On parle de 100 millions de dollars par année. Alors, c'est quand même considérable. Hier, il y a le député solidaire Sol Zanetti qui, pour faire une image, disait « Si on attend 4 ans, ça va être l'équivalent d'un centre Vidéotron qu'il faudra retrancher dans le tracé, dans le projet. Et le calcul que faisait le libéral Ciccone ce matin, c'est que ça revient à dire que c'est 275 000 $ par jour qu'on perd si on attend. Et le retard, il est déjà commencé puisque même la ministre responsable de la capitale nationale, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, rappelait ce matin que selon l'échéancier original du projet, on devait lancer l'appel de proposition, c'est-à-dire les appels d'offres pour la construction
l'automne dernier.
Du projet en novembre dernier.
C'est ça.
Donc, le retard, là, il est déjà commencé. On accuse déjà du retard.
Mais c'est à cause du gouvernement. C'est à cause du gouvernement du Québec. C'est à cause de la CAQ.
Qui, lui, s'appuie sur le rapport que le BAP
du
a
BAP,
produit,
oui.
Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, sur lequel on remettait en question un paquet de choses, donc le MOD, le tramway, la desserte des banlieues. Donc, ils ont soulevé un paquet de questions. Le gouvernement, ce qu'il répète à chaque fois, c'est que le projet, dans sa mouture actuelle, a largement changé par rapport à ce qu'ils avaient approuvé lors des élections de 2018. C'est-à-dire que quelques jours avant le début des audiences du BAP en juin dernier, hein, le maire Labeaume est arrivé avec des modifications assez importantes au projet, c'est-à-dire que la colonne vertébrale du projet de réseau structurant demeure donc un tramway, mais au lieu de coût de 2 milliards, on est rendu à 3 milliards, ce qui fait qu'il ne reste que dans l'enveloppe globale qui est limitée à 3,3 milliards que 200 quelques millions pour aller rejoindre d'autres secteurs avec des autobus qui circuleraient sur des voies réservées plutôt qu'un trambus ou des autobus sur des emprises exclusives là, vers les banlieues.
Des petits monticules.
C'est ça. Et donc, c'est ce qui agace la CAQ, et eux se tuent à répéter qu'il faut prendre le temps de bien analyser les changements importants qui ont été apportés. Et peut-être dernière chose sur ce qui s'est dit ce matin au Salon Bleu.
Oui.
Manon Massé qui a frappé fort aussi.
Oui, la co-porte-parole de Québec solidaire.
Exact. En disant essentiellement que le gouvernement Legault tarde à retarder volontairement le projet. Simplement,
tarde à retarder?
tarde à approuver, oui.
Ah oui, c'est ça, OK.
tarde à approuver, donc, le
projet. Mais c'est un bon...
Un bon lapsus.
Oui, oui, non, mais... c'est une belle redondance pour bien expliquer ce qui se passe. tarde à retarder, oui. C'est exactement ça. Donc, c'est pas ça qu'elle a dit.
Non, elle a accusé le gouvernement Legault de retarder volontairement le projet de tramway parce qu'une poignée d'élus caquistes de la région, dit-elle, ont peur de se faire varloper par les radios poubelles de Québec.
Ah ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Puis là, ils mettent l'accent, eux autres, sur le lien avec le troisième lien. Or, le troisième lien, c'est un projet pharaonique qui est beaucoup plus en retard, c'est-à-dire qui est pas du tout au même stade de réalisation que le tramway. Mm-hmm. Puis là, on veut arrimer les deux. On trouve pas l'endroit et parce que ça pourrait détruire une partie de la base ville. En tout cas, moi, j'en reviens pas. Je parlais l'autre jour avec un ancien collègue, Alexis Deschênes, qui est retourné dans sa Gaspésie. Puis l'idée m'est venue, je lui dis, pourquoi dépenser 10 milliards à Québec alors que la Gaspésie n'est même pas irriguée par le transport en commun de façon convenable? On sait que c'est les autobus Keolis. Et comme on dit souvent, les Gaspésiens sont en Keolis contre la compagnie. Donc, qui n'arrête pas de menacer de couper les lignes. Alors,
le gouvernement a souvent dit que le projet de troisième lien en est un qui est aussi pour l'Est du Québec.
Ah oui,
c'est un autre débat. Là.
Ça me fait bien rire.
C'est un
argument
qu'il nous offre. Mais effectivement, les partis d'opposition soulignent souvent que c'est paradoxal au fond parce que, bon, la CAQ veut prendre le temps d'étudier la nouvelle mouture du projet de tramway en raison des modifications qui ont été apportées. Mais de l'autre côté, ils veulent et ils n'auront pas le choix que d'aller rapidement avec le projet de troisième lien dont on ne sait toujours rien, là. Il faut se rappeler qu'il y a bientôt un an, au début de la pandémie, à une certaine époque où on croyait que la pandémie, ça n'allait durer que quelques semaines, puis quelques semaines après qu'on ait mis le Québec sur pause, on parlait déjà de la relance et de l'importance d'aller de l'avant avec de grands projets d'infrastructure. Je me souviens très bien que le premier ministre, François Legault, avait dit que le troisième lien et le projet de tramway à Québec allaient contribuer à la relance. Or là, on voit que les deux projets semblent faire du surplace, en tout cas du moins 2 ans et demi après l'arrivée au pouvoir de la coalition à venir Québec. Dans les deux cas, ce que le ministre des Transports, François Bonnardel, répète souvent, c'est « en temps et lieu, en temps et lieu ». La semaine dernière, il nous disait « laissez-nous travailler ». Mais pourquoi il y a encore autant de questions qui sont posées? Ouais. Parce qu'on a encore très peu de réponses ou pratiquement pas de réponses sur l'avenir de ces deux projets. On ne sait pas ce qui se passe.
Pendant ce temps-là, le REM se construit à vitesse grand V à Montréal, puis on met plus d'argent dedans, alors qu'à Québec, on contraint le seul projet qui semble prêt à une enveloppe fermé, bouclé à double tour.
Ben, c'est ça qui est particulier. Et encore là, on est rendu à un point où on a des élus de Montréal, comme ceux du Parti libéral, qui reprochent au gouvernement de n'en avoir que pour Montréal oui. et pas assez pour Québec dans les projets de transport collectif. Mais tout ça pour dire qu'au gouvernement, semble-t-il que les sceptiques seront confondus. C'est souvent ce qu'on me répète dans les coulisses. Et que le travail se poursuit. Madame Guilbeault disait ce matin que les discussions vont bien. Alors, je ne sais pas si ça veut dire
ouais,
que...
Oui, mais elle s'est pas nouveau. Engagée sur aucun échéancier.
Non, ben c'est ça. Moi, je l'ai relancé en lui demandant. Donc, ça pourrait aller à l'automne, donc.
Mm-hmm.
Ça semble être un peu ce que le maire Labombe essaie d'éviter. Lui, il ne veut pas que l'élection municipale à l'automne en devienne une qui soit référendaire sur la réalisation ou non du projet de tramway. Le débat demeure entier.
Il attend la conclusion aussi pour décider s'il va se présenter ou non.
Ben, moi, je pense que ça risque d'avoir un impact dans sa décision à savoir est-ce qu'il va se lancer ou pas pour la prochaine campagne électorale.
Merci beaucoup, Marc-André Gagnon.
Toujours un plaisir.
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Importante motion adoptée ce matin à l'Assemblée nationale contre, d'une certaine façon, le projet de loi C-21 qui vient d'être déposé par le gouvernement fédéral au sujet des armes de poing. On en parle avec Alexandre Leduc, député de Hochelaga-Maisonneuve de Québec solidaire. Bonjour.
Bonjour.
Donc, pourquoi avoir fait adopter cette motion-là? Vous en avez parlé hier, je pense, avec Geneviève Peterson, mais là, ça y est, la motion est adoptée. Qu'est-ce que ça change?
Bien, on veut envoyer un message très clair au gouvernement fédéral qui fait fausse route, là, en pensant de transférer, de déléguer le pouvoir d'interdire les armes de poing aux municipalités. C'est une mauvaise solution. À peu près tout le monde est d'accord avec cette analyse-là. Les villes n'en veulent pas. Vous avez entendu la mairesse Plante la semaine dernière.
Ouais.
D'autres villes canadiennes se sont prononcées contre ce plan du gouvernement fédéral qui, en quelque sorte, veut se laver les mains de cet enjeu-là, probablement parce qu'il subit une pression du lobby pro-armes, peut-être un peu plus dans les provinces de l'Ouest. Alors, en déléguant ça aux municipalités, ils espèrent, dans le fond, ne pas trop avoir à s'occuper de ça pour la suite, mais il y a quelque chose d'assez illogique là, de dire qu'une municipalité, par municipalité, on va adopter des règlements pour encadrer ou interdire les armes de poing. Mais là, je veux dire, si on adopte un bon règlement à Montréal, mais qu'à Longueuil, il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, l'arme va traverser le pont pareil.
Ben oui.
Donc, c'est complètement illogique. Donc, nous, on dit, OK, le fédéral ne veut pas utiliser son pouvoir, il est prêt à le déléguer à une autre entité. Ben nous, on lève la main, là, le gouvernement du Québec, là, on est capable d'appliquer ça, de recevoir cette délégation de pouvoir-là, puis d'interdire sur l'entièreté du territoire québécois la possession d'armes de poing.
OK. Donc, le gouvernement est d'accord avec vous là-dessus. Là, ce matin, je voyais que la ministre Guilbeault disait « ça nous agace cette volonté-là du fédéral de déléguer le pouvoir aux municipalités ». Mais comment ça pourrait se formuler, ça, une interdiction des armes de poing partout au Québec?
Bien, c'est-à-dire que ça, comme ça relève du fédéral, il y a une procédure, là, je me souviens plus du terme technique des constitutionnalistes pour nous éclairer, là, mais de délégation de pouvoir.
C'est la bonne émission, c'est ici, oui. On oui, est bon là-dedans.
La délégation de pouvoir se fait à une autre entité. Là, ils veulent faire aux municipalités, donc ça serait au gouvernement du Québec. Et tout simplement, ils pourraient interdire la possession, le transport, etc. Il y a toutes sortes de formulations qui peuvent être utilisées de par voie, notamment réglementaire, pour que l'arme de poing puisse complètement être interdite sur un territoire donné. Puis la logique, là, moi, ce que je comparais, c'est qu'on dirait qu'il veut y aller avec une stratégie de gruyère, là, où là, il y a un petit trou par-ci, un petit trou par-là, mais ça fait pas un ensemble cohérent de mesures. Puis, écoute, au gouvernement du Québec, je pense qu'on a la possibilité de le faire, l'intention de le faire. Moi, je pensais à cette notion-là en début de semaine. J'espérais vraiment que la CAQ embarque. On sait qu'ils s'inscrivent dans une logique nationaliste. Mm-hmm. On ne savait pas trop où les autres partis logeraient. Finalement, les libéraux aussi l'ont appuyé. Donc là, on a un consensus là, de l'Assemblée nationale. On imagine que les différents partis d'opposition de la Chambre des communes vont s'en saisir, le Bloc, le NPD, le conservateur aussi, peut-être. Quoi qu'ils sont peut-être plus sensibles au lobby des armes de
l'OTAN. Sûrement, oui.
Ça leur appartient, mais en tout cas, au Bloc ou au NPD, probablement, ils vont regarder ça puis dire, ben, OK, il y a un consensus très clair à l'Assemblée nationale que c'est pas une bonne stratégie, la délégation aux villes, mais qui sont intéressés au gouvernement du Québec à l'exercer ce pouvoir-là. Alors, peut-être qu'il y aura des amendements qui pourraient être faits au projet de loi.
Mais c'est bien beau d'interdire, mais il semble y avoir une nouvelle réalité en matière de commerce d'armes. Je pense que c'est un peu la même réalité auquel sont confrontées nos industries culturelles. Je m'explique. Il semble y avoir des Netflix ou des marchés good food des armes. On peut s'en faire livrer en pièces détachées. On peut aussi en imprimer avec des imprimantes 3D. Alors, on a beau interdire, mais est-ce que c'est pas plus facile que jamais de se procurer ce type d'armes-là aujourd'hui? Puis comment on peut contrer ça?
Vous posez une excellente question. Puis moi, je suis pas en train de vous dire que la proposition qu'on met sur la table va tout régler. Hein. Puis personne n'a la solution magique et unique. Le plan d'action sur la question des armes de poing là, à Montréal et autres villes, c'est un truc multifacette. Il y a l'enjeu des armes qui peuvent être volées ou revendues sur le marché noir, qui étaient légales à la base, mais qui ne deviennent plus. Et là, cette interdiction de possession d'armes de poing peut venir avoir son impact. Mais il y a plein d'autres facettes. Vous nommez les imprimantes 3D qui commencent à poindre le bout du nez dans cette industrie-là. Bien, ça, il faut se creuser les méninges. On n'a pas toutes les solutions. Il faut un corps de police spécialisé. La Ville de Montréal vient d'en faire un avec l'ATLA la semaine dernière. Il faut un meilleur contrôle des frontières. Le gouvernement fédéral dit agir avec son projet de loi pour donner plus de pouvoir aux gardes frontières pour bien contrôler ce qui rentre dans le pays en termes de colis, par exemple. Il faut des forces policières qui ont des moyens d'agir à ce niveau-là. Donc, puis aussi, il y a la question sociale que je veux vraiment pas oublier. Là. À la base, il faut s'assurer que les jeunes, entre autres, dans nos quartiers de Montréal et autres, sont pas intéressés à vouloir posséder une arme à feu. Mm-hmm. Et que la culture change alentour de ça. Et pour ça, il faut des programmes sociaux, des centres communautaires. Il faut qu'on leur offre une alternative. On leur offre quelque chose de plus intéressant, de plus stimulant. Et puis, bon.
C'est un problème particulier dans votre circonscription?
Ben, ça l'a été une autre époque, hein. On se rappelle du jeune qui était mort à cause de la guerre des motards.
Donc, oui.
C'était une bombe artisanale, c'était pas une arme de poing, mais quand même, on comprend là, qu'il y avait un certain parallèle. Donc, il y a un historique, un ressenti, je dirais, dans mon quartier de Hochelaga-Maisonneuve, mais ce que j'en comprends, c'est que les armes à feu, ça, c'est pas trop dans notre territoire pour l'instant. En tout cas, c'est un petit peu plus dans les quartiers de l'Est, un peu plus à l'Est de Montréal. Mais donc, il faut leur offrir quelque chose à ces jeunes-là, une alternative. Fait qu'il faut agir sur plusieurs fronts en même temps. Le front qu'on proposait aujourd'hui, c'est-à-dire que le Québec se saisisse de ce pouvoir-là, de cette délégation de pouvoir-là, pour interdire sur son territoire les armes de poing, c'est un des angles sur lesquels on peut agir rapidement.
Mm-hmm. Je suis curieux de vous entendre sur un autre sujet, le droit du travail maintenant, parce que le principe du projet de loi 59, qui est un projet de loi complexe, qui réforme la CNESST, donc toutes les questions liées à la sécurité au travail, a été adopté. Donc, le principe a été adopté. J'étais un peu surpris parce que il y avait tellement de critiques à l'égard de ce projet de loi-là. Vous avez donc accepté qu'on adopte le principe, mais j'imagine que vous les attendez au détour. Vous attendez le ministre Boulet au détour pour les modifications à venir.
Vous avez entièrement raison. D'un point de vue technique, on s'est abstenu là, sur le principe là, en début de semaine sur l'adoption.
Ah, vous êtes abstenu, OK.
Oui, ben, tu sais, l'adoption de principe, c'est une procédure assez, à la limite, quasiment banale. Le vrai vote, c'est vraiment à la fin. Comme vous le savez bien, cela dit, on voulait quand même envoyer un message. Le ministre, dans son discours à l'adoption de principe, a annoncé des amendements. Il n'y a pas eu une belle semaine, là, il y a 2-3 semaines avec les audiences. À peu près tous les groupes qui étaient venus lui ont fait des sérieuses remontrances sur plein d'aspects de son projet de loi, notamment les médecins de santé publique, l'entièreté du milieu du travail, le milieu communautaire, les non-syndiqués, là, l'UTAM entre autres. C'est bien fait varloper notre ami Jean Boulay. Alors là, il n'y a pas le choix de réagir. Dans son discours, là, il a annoncé qu'il allait réviser tout le volet prévention là, qui s'appelle la LSST, la loi de la santé et sécurité au travail. Il faut qu'il couvre tout le monde, parce qu'avant, là, le volet prévention, c'était à peine, je pense, 15 ou 20 des salariés du Québec qui étaient couverts par ça, par tous les mécanismes de prévention. Tu sais, un comité de santé et sécurité, un représentant des rencontres, etc. C'était juste les industries plus classiques, là, tu sais, les mines, les pétrolières, etc.
Ouais,
des jobs de gars, entre parenthèses. Non?
Ouais.
Et là, lui, il avait le défi de devoir couvrir tout le monde, ce qui aurait dû être fait là, dans les années 80, mais bon, ça n'a jamais été fait. Là, il couvre tout le monde, mais il introduit une notion de niveau de risque. Là, ça dépend, tu peux être un niveau de risque faible, moyen ou élevé.
OK.
Et là, les secteurs de l'éducation ou de la santé, par exemple, étaient niveau faible. Alors, faut s'imaginer que ça n'a pas très bien passé, surtout en temps de pandémie.
Ouais.
Et son système tenait pas la route. C'était pas très bien attaché, son niveau de risque. Alors, il s'est fait complètement démolir. Et puis là, il l'a reconnu, puis il est en train de travailler une nouvelle version de cet aspect-là de prévention.
Est-ce que vous admettez quand même que ça prend du courage pour s'attaquer à ça? J'ai tellement vu le ministre du Travail dire oui, il va falloir un jour qu'on touche à ça. Mais là, M. Boulet, lui, il plonge puis il propose quelque chose. Ça fait 15 ans, moi, que je suis l'Assemblée nationale, là, puis j'en ai vu plein qui hésitaient parce que c'est une boîte de Pandore.
Vous avez entièrement raison. C'est comment satisfaire à la fois la partie syndicale, la partie patronale, la partie communautaire.
C'est ça.
C'est pas simple. Cela dit, il y a des compromis qui peuvent être faits parfois, mais là, la facture était trop salée là, pour la partie des travailleurs et des travailleuses. Donc, on les couvrait pas tout à fait pour le volet de prévention, puis il y avait des reculs complètement inacceptables sur le volet indemnisation. Là, une fois que vous êtes blessé puis que vous devez vous faire donner des indemnités ou avoir une stratégie de réhabilitation, toute la logique du médecin traitant était évacuée. Donc, la personne qui est dopamine, le médecin qui vous accompagne, qui vous connaît, qui vous fait son diagnostic, on remettait ça en question. On revenait un peu à ce qu'on appelle le médecin de l'employeur. Notamment sur le programme de médecins de retraite préventive de femmes enceintes. Donc, il y avait des reculs assez majeurs en matière d'indemnisation. Puis là-dessus, il va falloir qu'ils bougent aussi parce que ça, je veux dire, c'est bien beau avoir un gain en matière de prévention. Donc, plus de personnes peuvent avoir plus d'outils pour prévenir les lésions. Mais si c'est au prix de reculs incroyables en matière d'indemnisation, une fois que vous êtes blessé, bien, finalement, on n'est pas sûr d'avoir gagné ou change pour les travailleurs et travailleuses du Québec.
Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Leduc.
C'est plaisir. À la prochaine.
Député d'Hochelaga-Maisonneuve de Québec solidaire. Et vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Robitaille,
le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
On en parlait avec Marc-André Gagnon plus tôt. Le projet de tramway de Québec recueille 56 % d'appui selon un sondage, mais il ne se construit pas à cause du gouvernement Legault qui tarde à donner son autorisation, ce qui fait sourciller même des militants de la CAQ. Et on en discute avec un d'entre eux, Samuel Clavet-Labrec. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes militant de la CAQ. Écrivez-vous dans nos pages, là, aujourd'hui, une lettre qui s'adresse au premier ministre.
Oui, exactement. Moi, je suis membre depuis 2017 à la Coalition Avenir Québec. J'ai milité aussi pour l'élection de 2018. J'ai milité pour la capitale nationale pendant l'élection 2018.
Vous dites que c'est la faute là, du gouvernement Legault si le projet ne se fait pas, puis vous êtes déçu du premier ministre, ou si même si pour vous c'est un modèle, vous en êtes déçu dans ce dossier-là du tramway.
Le premier ministre, François Legault, c'est un modèle pour moi. Par contre, moi, je cherche la faute à personne. Moi, je veux vraiment chercher des solutions. Je veux vraiment que les gens s'assoient pour vraiment mettre le projet de l'avant.
Mm-hmm.
Puis, je veux vraiment que ça aille le plus vite possible parce que je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, le vérificateur général de la Ville de Québec a mentionné dans son rapport mardi que par année de retard, ça additionnait 100 millions de dollars par année.
Ben oui.
Donc, c'est pour ça que moi, je veux vraiment que le projet avance le plus vite possible. Et je veux vraiment que tous les élus, que ce soit municipaux, provinciaux ou fédéraux de la capitale nationale ou des Chaudières-Appalaches, s'assoient ensemble pour justement trouver un moyen d'entente pour ce projet de structurant de transport en commun à Québec.
Mais le problème, est-ce que ce n'est pas une autre promesse de la Coalition Avenir Québec pour qui vous avez milité en 2018? C'est le troisième lien. C'est parce qu'on ne trouve pas la manière de bien arrimer les deux projets. Est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner le troisième lien? Qu'est-ce que vous pensiez de ce projet-là, vous, du troisième lien?
Moi, je suis en faveur du troisième lien. Je pense qu'il peut très bien s'intégrer au projet structurant du transport en commun à Québec.
De quelle manière?
Ça peut être de toutes sortes de manières. Ça peut être, comme le gouvernement semble vouloir avoir un tunnel à l'est de la ville, avec un tunnel autoroutier, mais aussi avec du transport en commun à l'intérieur qui relie Québec et Lévis. Ça peut être un moyen d'offrir ce réseau structurant aux deux régions.
OK. Mais ça a l'air que c'est ça le problème actuellement, non? Est-ce que vous percevez pas que c'est ça? Que c'est cette promesse du troisième lien d'avoir une première pelletée de terre avant la prochaine élection qui retarde le tramway?
Le gouvernement a fait la promesse du troisième lien et d'un tramway à Québec. Donc, je crois qu'on peut faire les deux sans problème.
Mm-hmm.
Les deux projets se complètent.
Vous dites donc, je suis vraiment déçu que vous n'ayez pas plus d'ambition pour notre région en termes de mobilité. Où est-ce que vous voyez le manque d'ambition?
Le manque d'ambition, c'est pour me comparer un peu Québec à Montréal, puisque le REM à Montréal, c'était un projet qui initialement devait coûter 4,5 milliards de dollars.
Mm-hmm.
Par la suite, ça a augmenté à 8 milliards de dollars. Et en janvier dernier, le premier ministre a ajouté une autre phase à ce REM d'un total de 10 milliards. Donc, on est rendu à 18 milliards de dollars pour le REM à Montréal, tandis que à Québec, on est rendu avec on est toujours avec un projet de 3,3 milliards et on est vraiment, on peut pas prendre plus d'expansion parce que le gouvernement du Québec a vraiment donné une camisole de force budgétaire à la ville de Québec pour le réseau structurant de transport en commun.
Donc, il faudrait mettre plus d'argent.
Ça serait idéal. Je sais que le gouvernement fédéral a annoncé aussi un 15 milliards de dollars pour le transport en commun et je crois que Québec pourra avoir sa part.
Mm-hmm. Vous dites que vous êtes militant de la coalition Avenir Québec. Comment ça se passe dans le parti actuellement, en pleine pandémie? Avez-vous des réunions? Avez-vous des Zooms? Ça doit être difficile, la vie militante, là.
Oui, c'est sûr qu'on peut pas vraiment faire de congrès ou d'autres activités politiques. Par contre, je sais qu'il y a bien l'étape régionale pour un prochain congrès qui va être entièrement virtuel.
Mm-hmm.
Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres activités partisanes.
Sentez-vous qu'il y a d'autres membres de la coalition Avenir Québec qui partagent votre point de vue de déception à l'égard du gouvernement dans ce dossier-là du tramway?
Je ne sais pas s'il y a d'autres membres qui partagent mon opinion, mais je crois que oui, puisque selon le dernier sondage qui est sorti ce matin, 50 % des gens de Québec étaient en accord avec le projet de tramway et la capitale nationale a voté en majoritaire parti pour la CAQ.
Ouais.
Que j'imagine qu'il y a aussi des membres dans ces électeurs-là qui sont favorables aussi au projet du tramway.
C'est ça. Donc, vous vous sentez pas seul. Mais est-ce que des gens de la CAQ ont essayé de vous appeler pour vous faire comprendre pourquoi ça traînait?
Non.
Non?
J'ai pas eu d'appel de qui que ce soit à propos de ça.
Mais si vous en avez, tenez-nous au courant, cher monsieur.
Merci.
Merci beaucoup, Samuel Clavel-Abrec, membre de la Coalition Avenir Québec depuis 2017. Et je rappelle que vous signez un texte qui s'intitule « Réseau de transport structurant ». Il est temps de faire avancer le projet dans notre section « Faites la différence » sur notre site web. Merci encore.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir. Et c'est ce qui met fin à La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.